Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Women of the Seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femmes au destin incroyable.
Il y a une photo parmi d'autres que j'aime beaucoup. Trois profils qui sont trois amis pakistanais qui regardent tous vers la même direction sur le côté droit de la photo. Ils sont habillés en noir et jaune. Et ils regardent vers le côté gauche de la photo, donc où c'est la mer qui est dans un état un peu tempête, un peu formé, et le ciel est très très nuageux, et ils regardent et ils ont un petit sourire et ils ont la tête bien relevée, quoi. Enfin, ils ont une allure que je trouve hyper belle. En fait, ils posent à fond. Ce que j'aime beaucoup, c'est un petit détail, mais il y a donc une première personne qui est de face avec son t-shirt jaune qui flash avec le bleu de la mer derrière, et celui qui est un peu derrière qui a la main sur son épaule. Et une troisième personne qui a le visage en même temps hyper grave. Enfin, j'aime beaucoup son expression et en même temps assez fière, quoi. On ne sait pas s'ils regardent leur futur ou s'ils regardent leur passé. En tout cas, ils sont face à la mer et je pense qu'on a tous une expression assez particulière quand on regarde la mer. D'autant plus, je pense, quand on a vécu un départ comme ça.
Maud Vette. 37 ans, marin photographe. Embarqué en octobre 2017, puis en octobre 2018, sur le navire de sauvetage Aquarius, de l'association SOS Méditerranée.
Embarqué deux fois sur l'Aquarius en 2017 et 2018 en tant que photographe pour l'association. Le sujet de la migration, ça me titillait depuis un bout de temps parce que j'habite à Paris et je pense que les campements, je les ai vus se monter, se défaire, se monter, se défaire. C'est un truc qui m'a toujours impressionnée, donc j'arrivais à aller les voir, mais pour des actions d'urgence, quoi, plus donner à bouffer, faire des maraudes. Je me suis quand même plutôt toujours engagée là-dedans, mais niveau photo, je sais pas, il y a un truc, je le sentais pas, quoi, j'arrivais pas à aider, en tout cas à penser pouvoir aider là-dessus. Alors j'ai entendu parler de SOS Méditerranée quasiment depuis les débuts parce que je connaissais Antoine Laurent qui a été rapidement marin sauveteur à bord, qui m'a raconté que voilà, SOS Méditerranée, c'est une association civile du coup européenne qui a loué un bateau avec un partenaire médical pour aller patrouiller en face de la Libye et aller tenter de récupérer, de sauver les embarcations de migrants qui partaient de la Libye, qui pouvaient se retrouver en détresse. Après les décisions européennes d'arrêter Mare Nostrum, du coup, il n'y avait plus personne dans cette zone-là. Et je savais aussi que, enfin, comme tout le monde, mais qu'il y avait beaucoup de passages de bateaux qui se faisaient et beaucoup de morts, notamment à l'époque, encore aujourd'hui. Hein. SOS Méditerranée s'est mis en place, je crois, en 2015, en réponse à ça, justement, au fait qu'il y avait beaucoup de passages dans cette zone-là, beaucoup de gens qui essayaient de fuir la Libye et qui se retrouvaient sur des embarcations de fortune et qui faisaient naufrage. Et voilà, et un jour j'ai su que par cette personne, il y avait un photographe qui annulait son voyage sur l'Aquarius. J'ai contacté l'asso qui m'a dit « Ok, ça peut le faire ». Effectivement, ils ont regardé mon site, ils m'ont dit « Bon, bah, a priori, t'es un peu dans ces sujets-là, ça devrait le faire ». Voilà, fallait partir, je crois, 10 jours après. Donc, j'ai dû prendre la décision assez rapidement. Je ne dis pas que je n'étais pas hyper stressée, que j'avais plein de peurs. J'ai regardé plein d'images, plein de vidéos. Je me suis dit, bon, j'ai regardé en fait ce qui avait déjà été fait. Je me suis demandé, moi, quelle place je pourrais avoir sur un bateau comme ça et qu'est-ce que je pourrais apporter. Et puis voilà, finalement, je suis partie une première fois. Donc l'Aquarius, c'est un bateau qui accueille à son bord une trentaine de personnes, qui a une dizaine de personnes qui est l'équipage lié au bateau, qui fait tourner le bateau. Il y a une dizaine de personnes du corps médical, donc le partenaire jusque-là, c'était Médecins Sans Frontières, et les 10 autres personnes qui sont les marins sauveteurs. Donc moi, en tant que photographe, je faisais surtout partie de l'équipe des marins sauveteurs, donc c'est-à-dire j'étais en capacité, vu que j'allais sur les Zodiacs qui vont intercepter les embarcations en détresse, j'avais cette capacité aussi de temps en temps de pouvoir poser l'appareil si besoin, de pouvoir aider et voilà, j'étais formée comme les marins sauveteurs. Mon rôle à bord, c'était de créer du matériel, photo, vidéo, audio qui sert ensuite à faire la communication à terre et d'un autre côté qui va servir d'archivage et qui va servir à communiquer sur la situation des sauvetages en mer au large de la Libye. L'Aquarius, c'est un grand bateau de 77 mètres avec une coque orange. C'est à l'origine un garde-côte allemand. On arrive par le pont arrière. Il y a un pont arrière qui est assez vaste, où ont été tendues des bâches, parce qu'en général, c'est là où vont dormir les hommes qui ont été récupérés des sauvetages. Ensuite, on monte une petite passerelle sur bâbord et on arrive sur les habitations. C'est en mode avec des portes hyper lourdes. C'est assez peu éclairé. Il y a à peu près 3 niveaux pour aller jusqu'à la passerelle et il y a aussi 3 niveaux pour descendre juste en bas. Dernier étage du bas, il doit y avoir les habitations des marins sauveteurs. Ils sont 2 par cabine. Comme on appelait ça le Bronx, là où ils habitent, c'est un peu le bordel, effectivement. Quand on remonte, on peut arriver sur le mess, qui est un grand mess, forcément pour accueillir une trentaine de personnes, il y a de la place. Et au niveau du mess, on a déjà les hublots qui nous permettent d'apercevoir la mer. Tout l'équipage est juste en dessous de la passerelle, donc l'équipage est un niveau au-dessus de nous. Et la passerelle, bah, c'est un 360 degrés, c'est une vue évidemment sur la proue. Qui est assez vaste, où il y a 2-3 containers. C'est arrivé aussi que cette proue, évidemment, elle accueille des rescapés quand il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Dans les habitations, il y a une grande pièce qui s'appelle le shelter, qui est réservée pour les femmes et les enfants. Donc, il y a une pièce qui peut être fermée, qui donne directement accès sur le pont arrière. Donc, les familles peuvent se retrouver, mais si on a décidé de fermer le shelter, parce que en général, les femmes, elles arrivent dans des conditions assez atroces, il n'y a que des femmes qui peuvent rentrer dedans, les marins sauveteurs. L'équipe d'MSF masculine ne rentre pas. C'est vraiment un espace qui est réservé aux femmes et aux petits-enfants. L'Aquarius, après, moi, j'avais jamais navigué sur des bateaux comme ça, vu que j'ai navigué que sur des voiliers, en fait. On sent que c'est un bateau très, très lourd, qui tient énormément bien la mer, donc je pense qu'il y a un côté hyper rassurant. Et puis, il est assez arrondi, il est assez contenant, quoi, on va dire. Et effectivement, oui, les ambiances de coursive la nuit, c'est un pauvre petit néon pourri. Enfin, voilà, c'est une ambiance, moi, que je connaissais pas de ces gros bateaux qui est assez... qui est assez rigolote aussi parce que c'est un bateau, je crois, des années 70 et qu'il y a pas mal de vieux objets qui traînent, notamment dans les cabines. Il y a des téléphones fil, quoi, enfin, qu'on peut décrocher, quoi. Ça m'est arrivé, moi, d'être appelée par téléphone, donc d'être réveillée en pleine nuit pour un sauvetage. Ils m'ont appelée sur ce téléphone-là, qui est un vieux son de téléphone allemand, et j'avoue que ça, c'était assez spécial de se réveiller avec ça. C'est assez émouvant, mais on voit que c'est pas un bateau neuf, quoi. C'est un bateau des années 70, lourd, peint en vert, beaucoup, je crois. Je me rappelle de cette couleur verte kaki. Forcément, ça crée aussi une ambiance, bien sûr. Du départ, donc ça dépend, ça pouvait être Marseille ou la Sicile, jusqu'à l'arrivée sur zone en face de la Libye, on a effectivement énormément d'entraînement. L'équipe MSF, elle va plus nous former sur les gestes de premier secours. Elle va aussi nous former sur ce que j'ai trouvé hyper bien, sur un accompagnement psychologique qu'on peut avoir avec les personnes rescapées une fois qu'elles sont à bord. Ensuite, avec l'équipe de marins sauveteurs, oui, on a des entraînements tous les jours, donc c'est progressif. Je pense qu'on fait beaucoup d'entraînement au départ sur le pont de l'Aquarius. Et puis, au bout de 2-3 jours, on met les zodiacs à l'eau, on jette des pantins, on apprend à les récupérer, comment, à faire le travail à 2-3, dans quel sens ça va, à acquérir aussi tout le vocabulaire qui est quand même hyper important, qui se fait que en anglais. Et je dis que c'est important aussi parce que, enfin, qu'on parle très bien anglais ou quoi, il y a vraiment des mots qui nous disent à ce moment-là qu'est-ce qu'on doit faire, enfin, comment, avec qui, dans quel ordre, voilà. Moi, en tant que photographe, évidemment, assez rapidement, quand on est parti sur les zodiacs, on m'a déterminé une place sur le zodiac d'où je n'avais pas le droit de bouger, en fait. J'étais à l'arrière du bateau, derrière le conducteur. Et j'avais aussi ce rôle-là d'être en capacité de dire d'être un peu les yeux du conducteur à l'arrière. Du coup, moi, j'avais en même temps une vision sur... c'est-à-dire que j'allais avoir une vision sur le sauvetage, mais il fallait aussi que je sois en capacité de regarder ce qui se passe derrière le moteur du Zodiac. En fait, on a des journées ultra, ultra chargées jusqu'au premier sauvetage, en gros. C'est des gestes qu'il faut acquérir et qui doivent devenir vraiment automatiques, même si ça ne l'est jamais vraiment, je pense. Mais c'est des gestes qui doivent être très naturels le jour où il y a un appel à un sauvetage. Les sauvetages, en général, c'est soit un appel des gardes-côtes, soit un avion qui a survolé la zone, qui a envoyé un signal, soit effectivement la watch, parce qu'on se relaie sur les passerelles avec des jumelles, on est toujours à deux. À scruter l'océan, en fait, et si on aperçoit l'embarcation en détresse, bah, évidemment, il y a une alarme qui est lancée sur le bateau, et là, de toute façon, on est toujours prêt, une fois qu'on est en face de la Libye, à ce qu'un sauvetage se passe. Donc, notre matériel est prêt, tout est très rapide, on doit être prêt en 3 minutes, matériel, c'est-à-dire le casque, la salopette, la bouteille d'eau, bon, moi, mon appareil photo, la GoPro.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Article 98. Paragraphe 1er. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et de se porter, aussi vite que possible, au secours des personnes en détresse.
Il y a eu un sauvetage déclaré, donc on est tous sur le pont, c'est-à-dire les équipes d'MSF, les équipes d'SOS. Donc ce sauvetage-là qui est arrivé au petit matin, il est arrivé après un transfert de personnes, qu'on avait transféré une cinquantaine de personnes pendant la nuit. Et là, vers 6-7 heures du matin, on allait tous se reposer un peu. Puis une heure après, il y a l'alarme qui a sonné. On est tous redescendus et là, on est reparti. Il y avait au départ 2 ribalos, sachant qu'il y en a 3 sur l'Aquarius. Ce que j'appelle RIP, c'est les semi-rigides qu'on utilise à bord de l'Aquarius pour approcher une embarcation en détresse. Enfin, ça peut paraître logique, mais on ne va pas approcher avec l'Aquarius, qui est un bateau énorme et lourd. Ça serait trop dangereux. Donc, on approche avec des semi-rigides. Le photographe, donc moi, part toujours avec le premier RIB, avec 2 personnes de MSF. Une personne très importante qui est le médiateur culturel. Médiateur culturel, c'est une personne qui parle je ne sais pas combien de langues. Enfin, là, il se trouve que c'était Serena à bord, une nana qui a 22 ans et qui doit parler peut-être 7 ou 8 langues et qui, en fait, est la première personne qui va s'adresser à l'embarcation. Donc, faut imaginer une embarcation avec une centaine de personnes serrées les uns contre les autres dans un espèce de zodiac qui est fin comme tout, qui n'est pas du tout aussi épais que les zodiacs avec lesquels on approche, quoi. C'est une espèce de bouée, souvent bleue ou grise, et plein de gens entassés à bord, un peu comme ils peuvent, sans gilet de sauvetage, évidemment, ou des faux gilets de sauvetage, ou des espèces de petits gilets. Et donc, Serena, donc le médiateur culturel, va s'adresser à la foule, parce qu'on peut parler de foule, vu qu'ils sont géniaux. Enfin, là, ils étaient une centaine, voire 150. Enfin, va d'abord leur demander dans quelle langue elle doit s'adresser, savoir quelle est la langue principale parlée par le bateau. Donc là, en chœur, en général, ils lui répondent anglais ou arabe. Et va leur dire qui on est, qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, là, elle passe son message très rapidement et elle essaye de surtout calmer les gens. Enfin, de leur dire de rester calme, qu'il n'y ait pas de mouvement brusque ou quoi qui fasse chavirer le bateau. Surtout, elle fait un état des lieux, elle demande s'il y a des blessés à bord ou des morts, ou des gens, surtout des blessés, pardon, parce qu'en fait, des gens qu'il faut évacuer rapidement. Voilà, alors sur ce sauvetage compliqué, c'est ce qu'on appelle un sauvetage critique, donc c'est un sauvetage où, quand on est arrivé auprès de l'embarcation, en fait, elle était déjà cassée. Et il y avait beaucoup de gens du bateau qui étaient dans l'eau. Donc ça, c'est un peu les pires sauvetages. Enfin, quand on fait les entraînements, justement, et pendant les réunions, on a effectivement une formation spéciale sur ces critical rescue, qui sont à partir du moment où il y a eu un problème avec l'embarcation, où des gens se sont retrouvés à l'eau, où faut gérer différemment le stress. Donc là, on est arrivé sur cette embarcation qui était, comme j'avais dit, déjà cassée. Et au moment où on a approché, forcément, avec le premier Zodiac, y a plein de gens qui ont sauté à l'eau. Donc, je pense une quarantaine. Grosse panique. Dans quel sens ? En fait, on s'est mis juste à jeter des gilets de sauvetage partout. Moi, j'avais pour mission de bien regarder derrière parce qu'il y avait vraiment du monde tout autour, quoi. Fait que deux photos à ce moment-là. J'ai quand même pensé un moment à faire des photos. Claque de là où j'étais, au moment où les gilets, ils volent et où il y a des gens dans l'eau, quoi. Enfin, j'ai pas spécialement cadré ou quoi. J'ai vraiment fait l'avant du semi-rigide avec les gens autour dans l'eau. Mais j'ai même pas du tout eu le réflexe d'appuyer sur le bouton quoi. Je pense que j'étais un peu à agiter mes bras comme je pouvais, à filer. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je pense que c'est ça le plus effrayant. Parce que l'image, en fait, c'est assez bizarre, mais je crois que le cerveau, il coupe un peu quand on voit ces choses-là. Il comprend pas ce qui se passe, ou en tout cas, il a un truc de défense, je crois, qui coupe, dans le sens. C'est pour ça que moi j'étais un peu, je savais plus trop quoi faire, c'est que j'ai l'impression que mon cerveau a fait clic. Par contre, quand je réécoute les sons aujourd'hui, c'est vraiment horrible parce que on entend des cris quoi, on entend des gens qui se débattent dans l'eau, on entend, le son, horrible. Ce RIB-là, le coordinateur de sauvetage, et en gros, c'est lui qui prend les décisions de ce qu'on fait. Et là, la décision a été prise de lancer un maximum de gilets et puis après de remonter les personnes qu'on pouvait remonter. Le deuxième RIB est venu se mettre en face et on a pu commencer à distribuer surtout des gilets à peu près aux gens qui restaient sur le bateau. Et après, tout est allé très, très vite parce qu'il fallait faire vite et qu'on a quand même aussi récupéré, on a récupéré un mec de la noyade, quoi. On s'est retrouvé à faire des massages cardiaques sur une personne qui a d'ailleurs été électroyée après, mais qui s'est réveillée sur l'Aquarius. En fait, une fois qu'on commence à transborder les gens sur l'embarcation en détresse, on les ramène par groupe de 10 sur l'Aquarius. Et là, c'est l'équipe de MSF qui les prend en main, qui va quand même les examiner un par un, leur demander leur nom, leur âge, d'où ils viennent. Et puis, c'est vite leur demander s'ils ont des marques physiques. Souvent, ils sont quand même souvent brûlés. Enfin, il y en a pas mal qui sont brûlés à l'essence parce qu'il y a souvent de l'essence qui traîne au fond de ces bateaux-là, en plastique. Et ça se mélange avec l'eau de mer. Et donc, il y en a beaucoup qui arrivent avec des vêtements qui se sont mélangés avec leur peau. Enfin, il y a pas mal de soins comme ça. C'était urgent à faire. Après, les femmes enceintes, elles sont aussi évidemment mises de côté. Enfin, tout le monde est examiné. En fait, l'arrivée sur le bateau, pendant 2-3 heures, on a ce qu'on appelle les golden hours, c'est-à-dire que les gens, ils se reposent sur le bateau une fois que le sauvetage est fini ou qu'ils sont partis de Libye, qui ont souvent subi des grosses violences. Ouais, ils arrivent vraiment dans un sale état. En général, ils ont passé entre 10 et 15 ans en mer, voire un peu plus. Donc, il y a un petit moment après qu'ils aient bu, qu'ils aient doucement mangé un petit peu, où tout le monde s'écroule, quoi. Après, l'équipe des marins sauveteurs et MSF ont fait des rondes toutes les 2 heures pour passer entre les rescapés, pour être sûr que tout va bien, pour voir s'il y a des besoins particuliers d'une couverture ou qu'est-ce, quoi. Souvent, j'avais remarqué qu'après, quelques heures après le sauvetage, une fois que tout le monde s'est reposé, il y a quand même beaucoup d'entre eux qui ont hyper besoin de parler, quoi, de raconter ce qui leur est arrivé. On avait eu un super conseil d'une psychologue MSF où elle disait, écoutez, alors vous, c'est pas votre métier d'écouter forcément si vous sentez que c'est chaud. Vous relayez, en fait, tout simplement, quoi. Vous commencez pas à dire oui, écoutez, ça va aller, nanana. Enfin, parce que, en fait, c'est vrai qu'on sait pas quoi leur dire. Enfin, ils nous racontent des atrocités. Parfois, on sent que... Enfin, moi, j'ai senti une ou deux fois que les putains de larmes me montaient. Je me rappelle d'une nana qui cherchait son frère partout et, en fait, on a découvert que, enfin, a priori, c'était noyé. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'a pas trouvé sur le bateau. Donc, c'est le genre de truc, t'es là, bon, bah, enfin, qu'est-ce que je peux lui dire à cette nana-là quand j'ai fait le tour du bateau, que j'ai interrogé tout le monde et que je me suis rendu compte que son frère n'était pas là et qu'en fait, on dénombre quand même pas mal de disparus. Bon, bah, voilà, j'ai préféré lui dire, écoute, va voir cette personne-là, elle saura plus quoi te dire que moi. C'est assez étrange, on est à 30 pendant une semaine, 10 jours, et puis tout d'un coup, on est 150 à bord. Moi, il y a un truc qui assez vite, je trouve assez émouvant, en plus de la fatigue qu'on accumule aussi, c'est de se dire qu'on est plein de nationalités sur un même bateau, quoi. Ça, c'est assez dingue. Et qu'en fait, la vie, elle reprend assez rapidement. Enfin, moi, j'étais étonnée, notamment grâce aux gamins, mais les gamins, eux, ils ont passé une nuit, ils ont à peu près bien dormi, parce qu'ils dorment par terre, mais en tout cas, le lendemain, ils se réveillent, ils ont envie de jouer, ils ont envie de chanter. Et ça, c'est... Enfin, ça, c'est vraiment hyper beau. C'est vraiment, c'est la résilience, quoi. C'est la résistance dans ces moments hyper durs. On se dit, putain, heureusement qu'il y a la vie qui reprend, quoi. Après, le rythme se met en place. On a les horaires de repas. Donc, ça, c'est nous, les équipes qui faisons les distributions. Après, on trouve un petit. C'est vrai qu'il y a un rythme qui se met en place, notamment quand on était resté bloqué 10 jours. Bah, il y a la possibilité de faire les lessives. Il y a construction de jeux de dames. Après, il y a aussi pas mal de... Ben, on a fait pas mal de petites fêtes, mine de rien. Il y avait un accordéoniste à bord. Et puis, on a chanté, on a dansé, on a inventé des chansons. Après, voilà, en tant qu'équipe, comme je disais, on fait des watchs. On se collait à peu près toutes les 2 heures. Aussi la nuit, pour être sûr que tout se passe bien. Et là, voilà, j'ai des super anecdotes de conversations sous les étoiles politiques avec des gens qui viennent de Libye. Enfin, et... de comment on voit le monde, enfin des échanges, voilà, hyper forts aussi, quoi. Si je dis d'où viennent les personnes, c'est vraiment pas pour faire des pronostics, parce que en fait, on a vraiment un concentré de gens à bord, et je pense que ça peut être un peu entre 2017 et 2018, c'était pas du tout les mêmes nationalités, par exemple. Ce qui m'avait étonné, c'était les Libyens qui quittaient leur pays, en fait, parce que c'est tellement le chaos. Il y en a aussi qui cherchent à fuir, quoi, ce pays-là. Le premier sauvetage qu'on avait eu, c'était que des Pakistanais, eux aussi assez étonnants. Enfin, tu te dis de prendre cette route-là, mais voilà, sachant que aussi la Turquie a fermé ses frontières. Enfin, voilà, je pense que les routes se décalent d'année en année aussi et changent. Je suis en contact notamment avec un gars qui avait à peu près mon âge, qui est un peu plus jeune, qui avait quitté la Libye, lui, avec ses platines sur le dos, son ordinateur, en fait, qui avait quitté ce pays parce qu'il avait envie de se refaire une vie. Il est parti seul, quoi, à 30 ans. Et voilà, c'est assez drôle parce que la première fois qu'il m'a parlé, il connaissait l'appareil photo que j'avais. Donc, on a direct tchatché là-dessus. Et je me suis dit, ah ouais, enfin, je me suis dit qu'il y avait en fait des gens vraiment, genre, ça pourrait être moi qui prend la mer, quoi. Là, je me suis forcément vachement identifiée et hyper bien entendu avec lui. Je crois qu'il n'arrivait pas à vivre en Libye, quoi. Vraiment, pas d'avenir, pas de, pas de possibilité de s'exprimer parce qu'il était plutôt dans des, je pense, dans des branches artistiques et enfin un truc par rapport à la religion aussi qui m'avait dit très très fort. Enfin, en gros, t'as pas le droit d'être athée là-bas. Donc voilà, lui, il fuyait tout seul. Mais il m'avait raconté aussi comment il était arrivé, lui, jusqu'à l'Aquarius. En gros, moi, j'avais commencé à lui parler du sauvetage, de comment on les avait trouvés parce que c'était en pleine nuit et ça avait été très galère de les approcher. Enfin, on a peut-être erré une bonne demi-heure, voire presque une heure. Enfin, nous, ça paraissait très, très long avant qu'on entende des petits sons d'une embarcation qui était en bois, celle-ci, et qu'on puisse repérer cette embarcation qui avait un problème de moteur, en gros, qui était à moitié en train de couler, quoi. Puis lui, il m'a raconté comment lui avait quitté, du coup, son chez-lui, quoi, qu'il était parti, qu'il avait rendez-vous sur une plage et qu'il pensait prendre un petit bateau, enfin, je pense pas limite un bateau de croisière, mais il pensait avoir acheté un billet pour prendre un bateau, quoi. Et en fait, là, il s'est retrouvé sur la plage avec une cinquantaine de personnes. Il s'est dit, mais enfin, y a quand même un souci, quoi. Et en fait, en même temps, il ne pouvait plus faire machine arrière, quoi. Il ne pouvait plus reculer. Et en fait, il m'a raconté cette peur qu'il a eue d'un coup. Enfin, peur, c'est un peu réducteur, mais c'est cette sensation avec les jambes complètement flagellantes de devoir monter sur un bateau dans une mer noire et de laisser derrière lui tout, quoi. C'est fou, ça faisait comme si on rejoignait les deux bouts de moi lui raconter que nous, comment le co-sauvetage a commencé, comment on a reçu l'appel, comment on est parti, tout ça, comment on les a cherchés, et lui me dire, ben, nous, de notre côté, c'était ça, on était sur une plage la nuit, tadada, il a fallu monter très très vite, j'avais mon sac à dos, j'avais tout ça, et ensuite, ben voilà quoi, je pars vers un autre destin. Il y avait cette famille-là aussi qui avait quitté la Libye. Bah, eux, ils étaient vraiment en famille. Ils avaient père, mère et 4 enfants, dont 3 filles, petites, hein, des petites filles. Ce qui les avait vraiment fait partir, si je me rappelle bien, c'est qu'un jour, sa femme, elle ne voulait pas porter le voile. Et un jour, il y avait une voiture qui leur avait foncé dedans de plein fouet, quoi, voulant les tuer, je pense. Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est hyper violent. Et en gros, la voiture qui leur avait foncé dedans avait dit « Ouais, faut porter le voile, nanana, et tout. » Et lui, il s'était rendu compte qu'effectivement, t'avais pas le droit de continuer ta vie en étant athée et que lui, ça le faisait juste chier de se dire que ses filles n'auraient pas le choix. Et parce qu'elles étaient toutes petites et c'est vrai qu'elles avaient des cheveux hallucinants et voilà. Il avait envie que ses filles, elles puissent apprendre la musique, qu'elles puissent danser. Et c'était un peu ça, de ce qu'il nous racontait. Ouais, c'était un peu ça, ses motivations aussi. C'était quitter le pays pour pouvoir élever ses enfants comme il l'entendait, quoi. Après, je me rappelle de la première année aussi d'une femme, une Algérienne, qui devait se faire opérer de la tête et qui avait fait une demande de visa 3 années de suite pour une opération, hein, vraiment... et qui n'avait jamais réussi à obtenir le visa. Donc, elle s'est dit, OK, je ne peux pas prendre l'avion. Je n'ai pas le droit de prendre l'avion pour aller me faire opérer. Bah, je vais prendre pareil. Je vais acheter un billet de bateau, quoi. Et elle partait avec, je crois, son fils. Enfin, ils étaient 3. Et en gros, elle pensait vraiment avoir, de ce qu'elle me racontait, elle pensait avoir acheté un billet de bateau, un ferry. Et pareil, elle s'est retrouvée sur la plage. Elle était en plus dans le bateau qu'avait pété, là, le sauvetage critique. Elle était embarquée dans un ce qu'on appelle rubber boat, c'est les bateaux en plastique où ils étaient entassés à 150, quoi. Et qui ne sont pas du tout des bateaux qui sont faits pour arriver quelque part. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'attendent pas du tout à avoir un voyage comme ça. Il y en a aussi beaucoup, quand tu discutes avec eux, qui ne s'attendaient pas forcément même à partir pour l'Europe, quoi. Qui juste allaient chercher du travail en Libye, pensaient faire un peu de sous et revenir chez eux. Et une fois en Libye, ils sont bloqués. La seule possibilité, c'est de prendre un bateau et de prendre la mer, quoi. Il y a des gens, comme on les a plus rencontrés que le premier embarquement, parce qu'on était moins nombreux et qu'on est resté beaucoup de temps en mer, il y avait des gens avec qui j'avais envie de garder le contact. Il y a 2 petits ados, ouais, qui sont en France, là, perdus dans le Berry ou je ne sais pas où. Forcément, ils sont tous un peu perdus dans la Pampa. Hein, mais bon, au moins, ils sont à peu près en sécurité, quoi. Les destins et les motivations des gens qui migrent et qu'on va à un moment rencontrer sur l'Aquarius, ils sont très, très, très variés. Enfin, globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens d'Afrique de l'Ouest. Bah, qui sont allés, je pense, chercher fortune en Libye, parce que ça fait longtemps, très longtemps dans l'histoire de l'immigration que la Libye, c'est une terre où il y a du travail et où il y a de l'argent. Et je pense que ces personnes-là ne pensaient pas du tout se retrouver dans des réseaux de trafiquants d'humains. Et là, ils se retrouvent bloqués en Libye. Ils ne peuvent absolument pas repartir chez eux, ni renvoyer l'argent. Et d'ailleurs, en général, ils se font tous voler le peu de pécule qu'ils ont. Et qu'à un moment, la seule possibilité, c'est d'essayer de partir ailleurs. Donc, le ailleurs qui est en face, bah, c'est l'Europe. Que la première fois je suis partie, j'avais pas mal d'appréhension par rapport à ce rôle-là, justement, d'être en tant que témoin, d'avoir comme rôle de prendre des images. Et je dis bien prendre parce que je me demandais s'il y avait vraiment une utilité. Enfin, je me disais, est-ce que je vais avoir à trouver ma place ? Est-ce que ça va être compliqué ? Est-ce que je vais pas me sentir complètement impuissante de moi faire des images alors que les autres y soignent, les autres y sauvent ? Et finalement, franchement, les appréhensions sont tombées très vite, notamment aussi parce que j'étais bien accompagnée, j'étais en équipe avec une com officer, Sophie Rahal, et qui s'occupe en fait, elle, qui utilise tout mon matériel photo, vidéo pour l'envoyer à terre, pour faire la communication, pour faire passer les nouvelles, tout ça. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup encouragée dans l'idée que c'était vraiment ultra important en fait de garder des traces, notamment des sauvetages critiques, de montrer en fait, de donner à voir cette réalité, d'insister sur le fait qu'à un moment s'il n'y a pas d'image de tout ça, comme ça se passe en plein milieu de la mer et au large, ben les gens ils sont pas au courant et les gens ils y croient pas en fait, ils voient pas des images, ils entendent pas des sons, ils voient pas des vidéos, et ben tout ça ça reste dans l'anonymat. Rapidement, je me suis plus, même en fait, ouais, tout de suite, je me suis plus posé ces questions-là. Je sais que la première année où je suis partie, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce que j'ai pas mal photographié, ce qui m'a inspiré, c'est l'homme face à la mer, quoi. Enfin, la situation de ces gens qui migrent, qui prennent la mer sans la connaître, a priori, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissaient pas du tout la mer et qu'on s'est retrouvés dans des situations de tempête, quoi, vraiment. Enfin, notamment un des derniers sauvetages qui s'est fait in extremis avant que la mer devienne complètement folle. Et de voir un bateau tout pourri, avec une centaine de personnes à bord, pas de gilet de sauvetage, au milieu de vagues et de creux énormes, ben, en tant que marin, c'est un truc, c'est un truc hyper flippant, quoi. Parce que toi, tu sais très bien ce qui peut arriver. Bon, eux, ils en sont à un niveau de risque et de peur tellement intense que je pense qu'ils réalisent pas vraiment. Mais toi, quand tu vois ça, voilà. Donc moi, j'ai pas mal photographié, notamment ça, la mer et l'état de la mer et les embarcations qui tout d'un coup devenaient microscopiques, quoi. Pas comme quand tu les aperçois à la jumelle. C'est hyper impressionnant. Je pense que tous les marins sauveteurs peuvent en parler. La première fois que tu vois au loin une embarcation à la jumelle tellement petite au milieu de cette immensité, c'est ultra, ultra flippant, quoi. Après, y a un truc qui m'avait un peu frustrée à mon premier embarquement, c'est de me dire, bon, moi, je fais des photos. Oui, effectivement, c'est important pour l'archivage, pour savoir ce qui se passe, mais... Mais en fait, les gens là, que j'ai rencontrés, que j'ai croisés sur l'Aquarius, eux, y a une utilisation quand même vraiment hyper forte aussi qui a été faite de l'image du migrant, l'image du migrant avec sa couverture de survie, enfin toutes ces images qui revenaient beaucoup et qui en fait, moi, me donnaient un goût d'insatisfaction, quoi, un truc, en plus beaucoup sur la masse, beaucoup sur la foule. Je me disais, bah, en fait, comme on disait juste avant, tous ces individus, ils ont une histoire hyper personnelle, hyper particulière. Et comment on peut essayer de représenter cette migration autrement? Donc la deuxième fois que j'ai embarqué, je me suis dit, bon là, j'y vais avec ma petite imprimante portable. Et comme ça, je vais pouvoir et faire des photos à bord et l'imprimer et les imprimer pour les gens, quoi. Je sais pas si ça a vraiment son importance ou quoi d'avoir un portrait à ce moment-là sur l'Aquarius, quoi. Mais finalement, je me suis quand même rendu compte que oui. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des photos à bord, plus des portraits, du coup. Et puis quand je les distribuais au fur et à mesure des jours, j'ai pas mal de gars qui sont revenus me voir. Hey, tu pourrais me faire les photos avec mes deux potes? Est-ce que je peux avoir la photo de famille? Enfin, parce que c'est quand même, c'est quand même un temps suspendu, ce temps-là de l'Aquarius, qui est un temps de partage et d'humanité assez fort. Et je pense que pas mal sont repartis avec leurs photos signées, machin. J'ai laissé un petit mot et. Et en fait, j'aime bien me dire qu'aujourd'hui, ça leur laisse une trace assez riche de ce moment-là. Et puis moi, en fait, ça m'a permis de faire d'autres images que j'avais pas, j'aurais pas fait pareil si j'avais pas eu la possibilité d'imprimer. Parce que du coup, en voyant les photos, il y a aussi un rapport un peu plus de confiance qui peut se créer. Ils savent comment je les monte, comment je les photographie et ce que je raconte aussi. Du coup, voilà, ils peuvent me redemander à un autre moment une photo. Et moi, j'adore qu'on me demande de faire des photos. et notamment dans la vie quotidienne, quoi. Les gamins qui jouent, la famille qui est réunie. Enfin, ouais, il y a des belles choses. Je faisais des photos à peu près tous les jours. Et je faisais et les photos qu'on me demandait pour SOS, parce qu'on me demande un rendement d'une dizaine d'images plus des vidéos chaque jour. Et après, moi, je faisais tout mon boulot à côté qui était plus lié à justement à l'individu, à son histoire et à cette vie un peu entre parenthèses qui se recrée à bord de l'Aquarius. Mais à la suite des deux embarquements, j'avais quand même amassé quelques photos. Mon expo, je l'ai appelé « Ils arrivent pieds nus par la mer ». C'est après le premier embarquement, un des trucs qui m'a le plus marqué, je pense, c'est de voir arriver des gens pieds nus, sans chaussures. Et parfois, ils avaient juste un petit sac plastique avec, en général, un portable hyper bien emballé. Et finalement, on a tiré une expo d'une vingtaine d'images, je crois, tirées sur 10 bons, où en fait, on a un cheminement des sauvetages jusqu'à rentrer petit à petit dans l'Aquarius et d'avoir des scènes de vie et la vie à bord. J'avais fait une série aussi pour la revue Femmes Photographes qui s'appelait En attente, où j'avais vraiment refait une sélection de ces moments d'attente face à Malte, notamment une photo... avec un petit garçon de dos où on voit passer un énorme cargo de ravitaillement, un cargo de commerce, parce que pendant les 10 jours qu'on a passé en face de Malte à faire des ronds dans l'eau, et on voyait les cargos de commerce continuer à aller se vider dans Malte, repartir, et voilà. Donc c'était assez spécial comme sentiment, parce que c'était vraiment en gros la marchandise à la droite passée et les humains ils passent pas, quoi. C'était juste après mon débarquement de l'Aquarius. On avait nagé 1h30 pour rejoindre les côtes d'une petite île. C'était une course en mer. Et j'avais un peu l'obsession de croiser un corps sous l'eau. Enfin, j'avais un peu ce traumatisme d'avoir vu des corps dans l'eau, en fait. Et pendant un petit moment, la Méditerranée, il y avait ça. Et puis, je ne sais pas, une fois, j'ai eu une super conversation avec un marin sauveteur de l'Aquarius. Et puis, il m'a dit, mais tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé sur l'Aquarius... la mer, ça devenait un truc horrible pour moi. Et en fait, j'ai pas voulu que ça devienne ça. Et je me suis remis à fond à faire du bateau, du hobby, à aller nager, à recréer en fait des images et des sensations
dans la mer comme on avait avant, en fait. Et je pense que ça, c'est un bon remède, effectivement. Je me suis dit, mais t'as raison, en fait. Si on reste bloqué sur ce qu'on a vu en mer, alors qu'on l'aime, c'est dommage.
Maud s'est formée à la photographie directement après le bac. En 2012, elle décide de passer le certificat matelot pont. C'est alors qu'un tout autre horizon s'est ouvert à elle. Elle navigue notamment sur le patriarche de l'association La Déferlante, rejoint l'équipage du Tara, la goélette scientifique, puis embarque sur le Kobia 3, cargo ravitaillant les îles des Tuamotu en matière première. Elle crée Femme photographe en 2016, avec trois amis artistes. Retrouvez directement en ligne l'ensemble du travail de Maud. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, plongeuse et chercheuse de trésors antiques.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.